Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs. On se retrouve donc dans le Bocal, le nouveau studio éphémère de la radio Esperanza. Alors, on a la chance d'être avec Debé Ganoré. Bonjour Debé, comment tu vas ?
Ça va bien, merci.
On va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu viens de sortir de scène, en fait, ça fait pas très longtemps, ça fait même pas une petite heure.
Ouais, c'est ça.
Peut-être, voilà, tes premières impressions sur le festival et puis sur ton concert, évidemment.
Ah, génial, un beau public, beaucoup de monde. Je m'attendais à moins parce que je me suis dit dimanche, les gens doivent être fatigués d'hier et tout. Mais là, il y avait beaucoup de monde. Et vu que c'est un gros festival, Esperanza, c'est un festival qui donne envie. On a déjà joué là en 2004. Donc, pour moi, c'était un peu revenir montrer un peu la petite qui a grandi après 3 albums. On est venu ici pour le premier album, Non Echo. Donc, ouais, c'était génial.
Bah justement, la transition est toute trouvée. Je voulais justement te demander, selon toi, quelle est peut-être l'évolution la plus importante depuis le premier concert ici, Esperanza, jusqu'à celui d'aujourd'hui ?
Oh, c'est déjà pour moi dans l'assurance. Parce que le premier concert, c'était un de mes plus gros concerts. C'était le premier album, c'était devant du gros public. On avait juste 45 minutes de concert à faire, donc il fallait prouver, il fallait montrer et tout. Donc tu vois, beaucoup d'énergie, on a envie de bien faire, vite faire. Donc c'était plein d'énergie. Et ouais, je me souviens de ça, que le public avait beaucoup aimé aussi. Mais au niveau musical, c'était assez petite percu, guitare. Et là, c'est basse, batterie, un peu plus du rond-dedans, un peu plus énergique. Donc, au niveau musical, ça change aussi du premier album au troisième. Ça change
oui,
aussi.
C'était un peu plus tranquille hein, au départ, le la premier, musique que
oui,
tu proposais.
Ouais, le premier album, c'était acoustique, guitare-voix, des chœurs, petits instruments traditionnels et tout, avec des chants assez posés. Le deuxième album, c'était un mix entre premier album et troisième. Le troisième album, on avait envie de faire quelque chose de plus enlevé, plus dansant. Et ouais, utiliser un peu le rythme urbain de l'Afrique, mettre un peu tout ça en valeur, quoi. Voilà. Mais on reste toujours dans l'africain, hein, toujours.
Voilà, justement, c'est ça que je voulais parler. C'est vraiment quelque chose... on sent que ça t'est vraiment très cher, outre même les messages que tu diffuses dans tes chansons. On sent vraiment, j'ai un peu du mal à expliquer, mais vraiment l'énergie africaine. Peut-être quand tu danses aussi, quand je te vois, bon allez, disons-le, remuer tes fesses, te mettre en avant, en arrière, on sent vraiment un truc ouais, propre à l'énergie africaine.
Oui, j'ai été baignée là-dedans, je suis née là-dedans, c'est ce que j'ai envie de défendre. J'ai envie de parler des valeurs africaines, donc des langues, donc des rythmes. J'ai envie de parler des différentes danses de l'Afrique. J'ai envie de danser une danse qui vient de l'Afrique du Sud comme une danse qui vient du Mali. Donc j'ai envie de pouvoir mixer toute l'Afrique. J'ai envie que ça soit aussi un message international comme aussi pour les Africains, que l'union fait la force, que en mixant les choses, en levant de temps en temps quelques frontières fera du bien aussi. Donc c'est pour moi un message qui va mettre du temps à passer parce que dans la musique et par là, ça met toujours du temps à passer parce que les gens veulent surtout retenir le côté plus magique, plus émotionnel que le message même. Donc ça met souvent plus de temps à passer, mais je pense que j'espère que d'autres vont continuer à défendre ce message-là qui est les valeurs de l'Afrique, quoi.
Et tu parles de mixage, de mixité, c'est quelque chose vraiment qui te correspond très bien, autant dans la musique que même dans la vie privée, puisque ça je pense que tout le monde le sait, hein. Une des personnes qui t'accompagne sur scène est tout simplement ton mari,
ouais.
Qui est français,
ouais.
Donc voilà, la mixité, tu la vis dans ta vie privée, tu la vis dans ta vie professionnelle et dans la musique, et aussi dans l'endroit où tu vis, puisque tu as vécu beaucoup à Abidjan, évidemment, t'es né là-bas, tu as vécu beaucoup en France aussi. Comment tu vis justement ces changements perpétuels, on va dire ?
Oh, je me suis fait et je crois qu'il faut accepter tous les changements, tout ce qui. Il faut tout accepter, je crois. Et je crois le changement et le mélange m'apportent beaucoup. Je viens d'une famille, mon père est bété, mon père est Dida, ma mère adoptive est bété, ma mère biologique est Apollo, qui est un dérivé du Ghanéen. Et j'ai grandi dans un village panafricain. Donc déjà à l'âge de 5 ans, j'étais déjà baignée dans un mélange, dans un mixage qui me fait aujourd'hui. Donc j'ai besoin de ça en permanence pour me connaître mieux, pour me sentir. Dans ma nourriture, je peux aussi manger du japonais, cuisiner du japonais, comme cuisiner de l'indien, comme cuisiner de l'africain. Je mélange tout et j'ai besoin de ça. C'est mon équilibre.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fort hein, sur scène.
Ce mélange aussi, dans ma vie aussi,
par rapport à ce que tu proposes, que ce soit en danse ou en musique, ou même les rapports entre les gens, on sent vraiment des choses bien différentes avec les différents artistes qui sont avec toi sur scène.
Oui, j'ai un Togolais qui est à la basse et à la batterie, pardon, et à la percussion. J'ai un Mauricien qui est à la basse et à la voix aussi. J'ai un Français et à moi. Et je chante aussi en beaucoup de langues africaines. Mon premier album était en 5 langues africaines, le deuxième en 7, le troisième en 5 langues aussi africaines. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de ça, c'est mon équilibre en fait. Ce métissage, ce mélange, c'est mon équilibre.
Justement, c'est là où je voulais arriver. Pourquoi peut-être et comment tu parles autant de langues africaines sur tes albums et sur scène aussi, même parfois quand tu t'adresses au public, j'ai remarqué, tu pourrais par exemple consacrer un album à une telle langue et toi non, au contraire, tu mélanges plusieurs langues, ce qui est super agréable à l'écoute. Mais comment se passe donc le travail de composition et la réflexion pour arriver à ce résultat?
Oui, ce sont des langues que je ne parle pas, j'écris en français, que j'ai fait traduire pour justement cet élan-là d'aller vers l'autre en fait. Et cette manière de vouloir valoriser les langues africaines, donc ce sont des langues que je parle pas. Il y a certaines langues que je connais, bonjour, ça va, bonne nuit et tout, des trucs basiques, mais je ne parle pas réellement. Et voilà, donc la suite d'autres questions, je sais plus.
Donc je te demandais comment t'arrivais à ce résultat, mais tu l'as un petit peu expliqué, donc tu fais traduire tes textes.
Voilà.
Mais finalement, l'écriture est toujours française au départ.
L'écriture est toujours française au départ, oui. Et après, je travaille avec, la plupart du temps, préféré avec des artistes parce qu'ils ont une manière de mettre le texte terre à terre en langue qui est plus quand j'écris un peu en français avec des images et tout
qui sonne tout de suite chanson, musique, c'est ça que tu veux dire?
Non, plutôt terre à terre, okay. Au niveau du texte, parce que moi je vais écrire en français par exemple la fleur, tu es belle comme une fleur qui éclate par exemple, et en langue belle comme une fleur qui éclate, bon, ça veut peut-être rien dire. Donc peut-être vont simplement dire tu es belle comme une déesse ou belle. Ils vont le mettre plus, ils vont trouver une formule plus terre à terre pour signifier mon texte en fait.
Oui, mais justement on parle de musique, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on s'écoute un petit extrait. Mais alors tu nous fais la belle surprise de nous faire un petit truc a cappella.
Oui.
Donc je te laisse l'honneur de présenter aux auditeurs ce que tu vas nous chanter et après carte blanche, c'est à toi.
Ok, je vous fais Summer Honey, qui est chanté en Swahili de Dar es Salaam. Juste deux secondes quoi. Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbalie, hata hivyo nakupenda na sina sana ya kupenda. Voilà, merci. Voilà.
Total respect, on applaudit a cappella, c'est bien. Moi, je dois t'avouer quelque chose. Je ne te connais pas, toi et ta musique, depuis très très longtemps. Merci. Mais j'ai lu un jour un petit article de 2-3 lignes où on parlait de toi comme un petit diamant, le nouveau diamant de l'Afrique. Ouais. J'adore la musique africaine, donc je me suis dit, ça, je dois regarder, ça, je dois écouter. Et donc, de un, je confirme que le petit diamant à l'état brut, comme on dit, que ce soit ici en studio ou sur scène, on l'a bien retrouvé. Merci. Et on parle souvent de toi comme étant une personne pleine de charisme, très envoûtante. Et c'est vrai que sur scène, t'as... Je sais pas si ça se passe dans le regard ou alors dans la danse ou évidemment dans la musique, mais t'as un espèce de contact très très proche avec les gens. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pourtant pas facile, tu joues tôt, etc. Comment ça se passe justement, ce contact avec les gens?
Ah, pour moi, c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent, en fait. J'ai envie de partager ma bonne humeur, j'ai envie de partager de l'amour, j'ai envie de faire un bon spectacle, d'abord pour moi, aussi pour le public. Donc, j'ai envie que les gens sortent heureux, en fait. C'est ce qui m'importe, que les gens soient heureux, qu'ils aiment la vie et que moi aussi, je puisse participer dans la vie juste une seconde. Donc, c'est ce qui me donne beaucoup de foi, en fait, le fait de voir que les gens aiment ce que je fais.
Et toi, peut-être dans ta vie, qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse?
L'amour. L'amour, simplement, la sincérité et puis les gens sincères.
Et on le disait tout à l'heure, l'amour, tu l'as trouvé avec un Français. Vous vivez de temps en temps à Paris. Puis quand ça va mieux en Côte d'Ivoire, tu retournes habiter là-bas. Oui. Comment tu vis cette relation entre ton pays d'origine et la France d'une part, mais aussi le fait de ne pas pouvoir peut-être t'accomplir totalement là-bas, puisque j'ai lu par-ci par-là que finalement c'était quand même assez ennuyant pour toi. Si tu avais le choix, tu aurais préféré rester là-bas.
J'aurais préféré rester là-bas, mais la situation politique parfois fait qu'on choisit autre chose. Mais je suis aussi bien ici parce que j'apprends autre chose, parce que j'évolue différemment, c'est bien. Et je pense que je ne vais pas rester totalement là. Il arrivera un jour où je vais retourner en Afrique, c'est certain. Mais parce que je défends l'Afrique dans mes textes, dans ma vie, donc j'ai envie de un jour partir et puis enseigner aussi à mes frères et aux jeunes ce que j'ai appris ici, ce que je peux apporter de plus là-bas aux jeunes là-bas. Donc pour moi je veux pas rester éternellement là.
C'est vrai qu'on sent ça très fort hein, chez toi, l'idée de voilà, l'Afrique maintenant il faut qu'on se bouge et c'est nous-mêmes qui devons nous bouger quelque
part. C'est clair, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire. Si en tant qu'Africains ne sont pas conscients du bien que nous avons, de tout ce que nous avons de bien que nous en tant qu'Africains on n'exploite pas, j'aimerais qu'on arrive à exploiter justement la culture, parce que la culture c'est la seule chose qu'on possède encore en main, on possède encore dans le cœur. Il faut qu'on arrive à exploiter, exporter notre musique un peu partout dans le monde. Et il faut qu'on arrive à être bien. On a tellement de richesses. C'est dommage de voir que d'autres pays profitent de nos richesses, vivent bien et puis n'ont pas de problème. Et nous, on a tant de richesses auxquelles on ne profite pas. Et nous sommes simplement... la politique fait tellement que les gens sont illettrés, les gens sont intelligents, mais n'ont pas la possibilité de s'exprimer, n'ont pas la possibilité de dire oui, non, on n'est pas d'accord. Et moi, c'est ce qui me manque en Afrique, quoi, de laisser libre parole aux gens, de laisser les gens vivre bien, comme ici. Pourquoi pas... bref, je ne vais pas refaire la politique maintenant.
Et c'est une des raisons pour lesquelles tu travailles avec autant d'artistes africains, que ce soit donc pour la traduction des textes, tu expliquais, mais aussi pour la composition de la musique parfois. Et...
Pour la composition, c'est Colin et moi.
Oui, mais vous faites quand même référence, si ce n'est pas en personne, à des instruments, à des rythmes africains, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a toujours ce contact très très important, que ce soit avec des artistes et des personnes pour la traduction des textes, ou alors avec des instruments, des rythmes.
Oui, qui parlent de l'Afrique, ouais, que du balafon. Oui, on a toujours envie que dans une chanson, il y ait le parfum ou l'image de l'Afrique quoi, qui ressort dans toutes nos compositions, quoi. On a toujours envie.
Mais je ne sais pas si tu as encore beaucoup de temps avec nous. Moi, je voulais qu'on reparle un petit peu de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai envie de découvrir beaucoup plus. Mm. Toi, tu y as vécu, donc si tu pouvais nous en dire quelques mots.
Ah, c'est un pays, quand j'y retourne maintenant, je pense au tradit moderne. C'est un pays qui est assez mixé culturellement. C'est un pays qui est véritablement mixé et c'est dommage que ces dernières années, ces derniers temps, on parle de l'ivoirité. Je trouve ça dommage parce que ce qui fait même la beauté de la Côte d'Ivoire, c'est ce mixage-là entre les Burkinabés, les Maliens, les Togolais qui vivent là, les Sénégalais et tout, qui font la Côte d'Ivoire. Et quand on va en Côte d'Ivoire, on a l'impression de connaître toute l'Afrique parce que tout le monde s'y retrouve, tout le monde est là et c'est un pays assez rythmique, assez énergique.
Et ça danse, ça joue
ça
beaucoup.
Ça danse, ça joue. J'ai beaucoup fait. Chaque pays de l'Afrique a son image, a sa couleur différente. Et je suis ivoirien, donc je vais te dire que je préfère forcément la Côte d'Ivoire.
En foot aussi, tu préfères la Côte d'Ivoire?
En foot, je suis pas super foot. Mon mari est plus foot que moi-même, mais. Sûr que je vais préférer, si à mon équipe qui joue, c'est sûr que je vais crier pour mon équipe, quoi.
Ouais, la dernière Coupe du Monde, c'était pas trop difficile, j'ai envie de dire, entre la France et la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun de vous deux qui était particulièrement
c'est
heureux.
C'est clair. Et si on repart... La Côte d'Ivoire a un peu plus résisté quand même.
Ouais, tu vas me dire, c'était pas non plus très très compliqué. Si on termine justement en parlant de nouveau de la Côte d'Ivoire, si tu pouvais donner peut-être tes espérances pour le pays.
Ah oui.
On sait qu'il y a eu les émeutes, etc.
Il y a longtemps maintenant.
Une instabilité qui est quand même, on sent un peu palpable encore.
Ouais.
Peut-être toi, comment tu vis intimement les choses? Peut-être nous dire comment les gens là-bas vivent aussi les choses. Et puis voilà, tes espérances.
Oh bon, c'est vrai qu'il y a... Il y a eu le côté 2002 là qui a mis un peu le pays en déséquilibre, Mais malgré toutes ces déséquilibres là, il y a des gens essaient quand même de vivre quoi, qui passent au-dessus en fait. Ils vivent au-dessus de tout ça et quand tu vois en Côte d'Ivoire en ce moment, t'as l'impression qu'il y a rien eu en fait. T'as l'impression qu'il y a rien eu, mais moi qui connais les gens, je vois dans l'attitude des gens que ça a beaucoup changé. Je vois que les gens c'est moins stable. On se demande si du jour au lendemain les choses vont pas éclater encore, vu que les élections se reportent à chaque fois. Donc moi ça me fait un peu flipper, si je peux dire ce mot. Mais mes espérances, j'espère que d'ici là, on pourra avoir une élection propre, vraiment. Et que la Côte d'Ivoire redevienne à peu près comme elle était avant, que les gens puissent avoir un peu plus d'espoir pour pouvoir vivre là-bas, parce que c'était un pays qui se développait très très bien, les gens vivaient super bien.
Et justement, tout ça a vraiment été fort cassé, fort marqué par...
Bien sûr, c'était vraiment le chaos. C'était, pendant les événements, c'était le chaos, quoi. Mais les choses, petit à petit, remontent, quoi. C'est juste qu'il y ait une bonne élection et que... qu'on ait confiance aux politiciens, en fait. Moi, c'est surtout ça, en Afrique, en général, c'est la confiance des politiciens qui... C'est le fait qu'on n'a pas confiance en eux qui me déçoit le plus, en fait. Parce que si ils étaient assez conscients pour créer des choses, pour donner un peu plus de valeur à la population, les gens n'allaient pas chercher à partir, à fuir le continent. Ils allaient rester, parce que c'est un paradis, l'Afrique. On sait tout ça, on est au courant. C'est un paradis, mais... c'est les politiciens qui dérangent, en fait. C'est les politiciens qui foutent la... En fait.
Je crois qu'on a tous compris ce qu'elle voulait dire. Tu parles beaucoup de politique. Pour reparler un petit peu de musique, en tant qu'artiste, vous vous sentez soutenu par les politiciens derrière vous? Ou alors il y a personnes qui sont là pour vous aider au niveau culturel, la musique plus en particulier?
On sait bien que si un politicien veut soutenir un chanteur... Il faut que ce chanteur-là chante le nom du président ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est ce qui me dérange un peu.
Quelque chose qu'on ne doit pas s'attendre à devoir faire un jour,
non,
je crois.
Non. Je ne vais jamais chanter le nom d'un président parce que j'ai envie qu'il m'aide. Non. Oh, non. Oh, je prie les dieux pour jamais me tromper. Mais.
Tu veux qu'on reparle un petit peu plus de musique? Peut-être c'est comme pour ça que tu es là au départ. Au début de cette année, tu as remporté un Grammy Awards. Mm-hmm. Tu es la première artiste ivoirienne, je crois, à avoir remporté ce prix. Mm-hmm. C'est évidemment quelque chose de colossal. Pourquoi? Enfin, quel est ton sentiment par rapport à cette victoire?
J'essaie de pas... De toute façon, je peux pas avoir la grosse tête avec ça. Parce que c'est grâce à Ndiari qui a aimé un de mes morceaux, qui a remixé mon morceau Paléa, qui est de Xuna Afriki, et qui a sorti Pearl, et ça a super marché, ça a eu un Grammy. Pour moi, c'est génial, quoi. Ça me donne l'espoir de continuer. Ça me donne l'espoir de rester dans la musique africaine, de continuer à chanter la langue africaine.
Oui, puis c'est une vraie reconnaissance aussi au niveau mondial, en plus, pour le coup.
Ouais, ça, c'est vraiment génial. Donc ça donne de l'espoir et j'ai envie de dire comme ça aux autres artistes africains qui ont envie de chanter en anglais ou faire du R&B ou du rap que vous voyez on peut rester dans la musique africaine, c'est pas ringard quoi.
Non, c'est pas ringard du tout.
Oui,
c'est clair.
Mais ouais, je te dis parce que ici les gens aiment parce que ça dépayse un peu, on montre de la joie et tout. Mais en Afrique, je te dis, quelquefois, j'ai l'impression que la jeunesse croit que c'est ringard de chanter en langue africaine, ou c'est ringard de faire des percussions, ou de faire des danses. J'ai l'impression, quoi. Donc, ils mettent pas plus ça en valeur, ils ont envie de faire de R&B et chanter en anglais, faire un peu. Mais c'est pas leur faute, parce que ce qu'on nous renvoie d'ici, c'est ça, quoi.
C'est
cette image-là de porter la casquette, le jean jusque-là.
Le baggy.
Voilà, franchement. Et ben voilà, donc moi ça me donne l'espoir, ça me donne envie de continuer, j'ai envie d'en parler autour de moi et puis faire en sorte que d'autres artistes, jeunes artistes africains puissent suivre les traces de Myriam Makeba, d'Angélique Kidjo et de toutes les grandes stars qui ont défendu la cause africaine et la culture africaine, quoi.
Écoute, tu dis que tu voudrais bien continuer, que tu voudrais bien qu'on continue à parler. Moi, franchement, je voudrais bien aussi. Il ne me reste plus que 2 minutes, peut-être une d'ailleurs maintenant. Je voudrais juste bien qu'on fasse un tout petit point sur tes rapports avec la Belgique. Ouais. De un, tu as chanté à l'Abbé à Bruxelles il n'y a pas si longtemps que ça. C'était fin mars, je crois, il y a quelques mois de ça. Ouais. Et puis, tu as aussi été découvert par Contre-Jour. Peut-être expliquer un petit peu ça. Donc, finalement, c'est un rapport assez important avec notre pays.
Oui, Contre-Jour, c'est... je dis toujours, je l'appelle mon père. Et c'est vraiment l'homme ma chance, en fait. Voilà. Parce que j'estime que tous les artistes africains, en général, ont de la voix, ont des choses à dire, comme moi. Mais je crois que je suis tombée dans des bonnes mains, en fait. Donc j'ai eu la chance d'être avec Michel Debock pour pouvoir faire autant de concerts, au moins 600 concerts depuis 6-7 ans maintenant. 3 albums, et puis je tourne partout dans le monde, franchement. Et voilà quoi. Donc, Contre-Jour est vraiment. Ceux qui défendent la culture africaine et qui veulent en fait que les artistes africains puissent vraiment réellement vivre de la musique, quoi.
Et on l'a reçu en studio juste avant toi, donc il nous a parlé beaucoup de tout ça, évidemment. Ouais. Et c'est vrai que même quand vous vous croisez ici, vous dites bonjour, on sent une complicité, un espèce de respect mutuel qui est vraiment palpable.
Hein. Ah non, c'est un homme même qui respecte, c'est un homme qui est simple déjà. On se demande, mais pourquoi il est comme ça? Il a une grande maison, Contre-Jour, qui est connu un peu partout dans le monde et tout, mais quand tu le vois, c'est un homme simple qui aime les gens, qui met tout le monde à la même place et tout
ça. Qui aime communiquer, partager aussi.
Ouais, franchement, il a un bon fond, vraiment. Donc moi, ça me plairait de travailler longtemps avec lui encore, quoi, tu vois.
Et peut-être encore un petit mot donc sur ton concert à l'Abbé à Bruxelles. Évidemment, c'est une ambiance totalement différente d'ici.
Oui, c'est clair.
Pour les gens qui ne connaissent pas l'Abbé, c'est une scène beaucoup plus intimiste. Tu n'as même pas 1 mètre parfois des spectateurs.
C'est clair.
Évidemment, ici, la scène d'Espéranza Côté Jardin, on n'est pas vraiment dans la même
club,
cour.
C'est clair.
Voilà, comment tu gères ces scènes différentes? Peut-être finalement, ce que tu apprécies le plus? Et puis donc, le contact à l'Abbé, j'ai vu des photos, c'était vraiment très... Parfois, tu les touches, les gens, tu vas, descends presque vers eux.
C'est différent. Quand c'est dans un club ou dans un festival ou dans une salle de théâtre et tout, c'est vraiment différent. Mais le spectacle... Bon, le programme du spectacle ne change pas. Peut-être c'est l'attitude et c'est... En général, c'est vice-versa, en fait. C'est le partage entre le public et moi. Ça dit, je donne, s'ils reçoivent bien, qu'ils m'en donnent aussi... Ça, je continue, mais si je donne qu'il soit moyen, mais qu'il ne donne pas, le spectacle peut rester juste, c'est que moi qui m'amuse sur scène en fait, et eux qui sont là juste pour regarder. Ça en général, c'est dans les salles assises avec des gradins là, mais en festival ou dans un club, c'est plus dynamique, c'est plus, il y a ce partage là qui se fait naturellement.
Bah, je crois que c'est une bonne manière de terminer cette interview. On parlait au début de partage et d'échange. Tu termines en parlant de partage et d'échange. Moi, je vais à mon tour terminer en disant qu'on était super heureux de te retrouver ici.
Merci.
Je pense que je peux parler au niveau de tout le monde ici à Esperanza, que ce soit les spectateurs ou l'organisation. C'est un vrai plaisir de te retrouver 4 ans après la première fois.
Merci.
Je précise aux auditeurs qu'on se retrouve dans une demi-heure, je crois, pour l'interview de Jackie. Ça aussi, ça va être un bon moment. Et alors, de nouveau, tu nous fais une belle surprise. C'est toi qui as choisi le dernier titre qu'on va passer pour terminer ton interview. Mm-mm. Donc je te laisse l'opportunité de le lancer et on se quitte comme ça.
Donc c'est Mouziguier, et Mouziguier qui signifie les enfants esclaves.
Opa mopa wo hige. Opa mopa wo hige. Zalokulu oswa bazokwa mokwa bo mopelo mayobulu mamubwanyite wazwa wagepi monikeke yeye. Kukenu alibobe walulwa kwane kwane yeah. Usoku parote soko bojo, yeah, yeah.